Avoir du respect pour la vacuité. Avoir du respect pour la concentration. Il est intéressant de noter que parmi les différents facteurs de la voix, la vertu, la concentration et le discernement, le Bouddha a distingué la concentration comme étant quelque chose digne de respect. À un moment, il l'a appelé le cœur de la voix. Et cependant, la raison pour laquelle il a besoin de nous rappeler de la respecter, c'est parce que nous avons tendance à la négliger, à la fouler aux pieds. Nous avons tendance à ignorer, à ne pas prêter beaucoup attention à ces petits moments de calme dans l'esprit. Nous sommes tellement plus intéressés à courir après les choses, rendant ainsi l'esprit tout excité, et cependant, nous ignorons ces petits moments de calme entre ce qui revient fondamentalement à des moments de perturbation dans l'esprit. Nous considérons les perturbations comme quelque chose d'intéressant et le calme comme quelque chose d'ennuyeux. Et donc, nous courons continuellement après tout ce qui apparaît soudainement et qui a l'air intéressant. Mais après l'avoir regardé pendant un certain temps, nous voyons que ce n'est pas grand-chose. Donc, nous le laissons tomber, l'esprit devient calme pendant un moment, et ensuite nous passons à quelque chose d'autre. Ces petits moments de calme sont repoussés si loin à l'arrière-plan que nous les voyons à peine. Et pourtant, ces petits moments de calme sont ce que le Bouddha veut que nous travaillions, que nous respections. Sans ces petits moments, d'une part, l'esprit deviendrait dingue. Il n'aurait pas du tout de repos. Dans le même temps, si vous voulez développer une concentration plus forte, vous devez commencer avec ces petits moments. Commencez à les relier les uns aux autres. Résistez à la tentation de courir après n'importe quelle nouvelle distraction tape à l'œil, qui fait éruption dans l'esprit. Décidez que vous n'allez pas céder au battage publicitaire. Vous allez rester ici même, avec la respiration. La respiration n'est pas un objet tellement excitant, en surface du moins. Cependant, à mesure que vous apprenez à la connaître, vous découvrez que plus vous passez de temps avec elle, plus elle a à offrir, plus cela devient absorbant. Mais pour atteindre cet état d'absorption, vous devez commencer avec de petits moments de concentration, de calme. Faites-y attention. Prenez-en soin. Pour décrire ce processus, Ajahn Phong utilisait souvent le mot thaï, prao kang, qui décrit ce que vous feriez si un enfant apprenait à marcher et que vous vous teniez derrière lui. Vous voulez qu'il apprenne à marcher par lui-même, mais vous ne voulez pas qu'il tombe. Donc, vous tournez doucement autour de lui pour être certain qu'il ne va pas tomber, tout en ne l'empêchant pas de marcher par lui-même. C'est le genre d'attitude que vous devriez avoir vis-à-vis de votre concentration. Au début, vous devez avoir la foi que la concentration va être une bonne chose. Les passages que vous avez lus dans les textes sont là pour inspirer. Un sens de ravissement imprégnant le corps. L'image qu'il donne est celle d'une source d'eau remontant à la surface, imprégnant un lac, ou celle de lotus saturés d'eau, depuis l'extrémité de leurs racines jusqu'à celle de leurs fleurs. Ça a l'air bien. C'est quelque chose dont vous aimeriez faire l'expérience. Ces images sont attirantes pour plusieurs raisons. 1. Ce sont des descriptions vraiment précises des niveaux de concentration. 2. Elles sont conçues pour vous donner envie d'aller là-bas, pour vous rappeler que ces petits états de concentration, qui ont l'air si peu prometteurs en eux-mêmes, si vous les cousez ensemble, développent une force, développent une profondeur, fournissent un sens de gratification intense qu'ils n'auraient pas si on les laissait tout seuls. Lorsque vous prenez ces leçons à cœur et que vous les menez jusqu'à leur terme, vous découvrez que la sensation de paix, d'espace, et de calme dans l'esprit devient de plus en plus attirante. Vous voulez pénétrer dans cette sensation de paix et y demeurer pour de bon. C'est ce que le Bouddha appelle prendre la vacuité pour demeure. Au lieu de vous focaliser sur les personnages au premier plan, vous vous concentrez sur l'espace calme autour d'eux. Vous vous rendez compte que cet espace est un espace attirant. Il est calme, il n'est pas perturbé. Il y a seulement cette perturbation minimale, la résolution de l'esprit focalisée sur la respiration ou un autre sujet de méditation. Vous lâchez prise de toutes les autres préoccupations. Lorsque vous faites cela, vous vous rendez compte du poids que vous avez trimballé avec vous, du nombre de fardeaux inutiles que vous avez créés vis-à-vis de vous-même. Vous en venez à apprécier comme c'est bon de posséder cet espace calme dans l'esprit qui entoure tout le reste. Vous voulez qu'il devienne de plus en plus omniprésent. Cependant, il est tellement facile de le perdre, parce que vous avez encore cette vieille habitude qui consiste à courir après les choses que vous pensez être importantes ou intéressantes, les choses dont vous pensez qu'elles ont beaucoup de valeur, les choses que vous devez examiner, dont vous devez vous occuper tout le temps. Donc le Bouddha vous donne des outils, les trois caractéristiques, pour défaire ces habitudes, pour vous aider à vous rendre compte que ces choses ne méritent pas vraiment tout ce tracas, qu'elles ne méritent pas toute cette attention. Elles ne méritent pas d'accabler l'esprit. Cependant, il est important de noter qu'il ne vous oblige pas à contempler les choses de façon radicale, selon les termes des trois caractéristiques, avant que vous n'ayez atteint cet état de concentration et que vous ne l'appréciez. Maintenant, il vous oblige effectivement à utiliser les trois caractéristiques d'une manière moins radicale pour vous aider à vous établir dans un état de concentration, pour vous aider à vous débarrasser des emmêlements qui empêchent l'esprit de s'établir. Mais en ce qui concerne l'analyse vraiment radicale, il vous demande d'attendre jusqu'à ce que votre concentration soit ferme. Certaines personnes commencent à analyser les choses de façon radicale selon les termes des trois caractéristiques avant de posséder une habileté suffisante dans la concentration. Et cela peut devenir très déprimant, très désorientant. Cela peut court-circuiter la pratique. Vous réussissez à obtenir un petit peu de concentration et puis vous la perdez. Et alors, vous vous consolez en disant que vous avez obtenu de la concentration toutes les visions pénétrantes dont vous aviez besoin. Vous avez vu que c'est quelque chose d'impermanent, donc vous n'êtes plus obligé de la pratiquer. Et cela court-circuite la voie. Mais si vous contemplez les trois caractéristiques dans le contexte d'un état de concentration bien maîtrisé, cela accomplit vraiment quelque chose. Cela devient libérateur. Vous commencez à vous rendre compte que ces perturbations dans l'esprit, qui tendent à éliminer la vacuité, créent des problèmes au sein de la vacuité, détruisent la vacuité, la coupent en petits morceaux, et qu'elles n'en valent pas vraiment la peine. Elles ne valent pas vraiment la peine qu'on s'en inquiète ou qu'on s'en préoccupe. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer à leur poursuite. C'est à ce stade de la pratique que le Bouddha veut que vous pensiez aux trois caractéristiques d'une manière radicale, pour voir que les choses dont vous vous êtes vraiment inquiété, les choses auxquelles vous vous êtes vraiment accroché avec force, sont elles aussi assez vides. Et c'est là où leur vacuité devient une chose positive au lieu d'être déprimante ou nihiliste. Cela signifie que vous n'êtes pas obligé de vous en accabler. Vous pouvez vivre avec elle d'une manière telle qu'elle ne soit plus du tout un fardeau pour l'esprit. Dans le canon Pali, lorsque le Bouddha parle de la vacuité, il le fait dans deux contextes principaux. Le premier est ce sens de résider dans la vacuité, lorsque l'esprit devient calme et que la vacuité commence à entourer les choses. Le caractère positif de cet aspect de la vacuité est évident. Ensuite, il y a d'autres passages où il parle de la vacuité dans le sens que les choses sont vides d'un soi, ou de toute chose ayant trait au soi. En d'autres termes, elles ne sont pas vous, pas à vous. Elles ne vous appartiennent pas. Pris hors de son contexte, cela semble assez négatif. Les choses dans lesquelles vous aviez l'habitude de placer vos espoirs ne sont pas vraiment vous ou à vous. Vous ne les maîtrisez pas. Si vous prenez cet enseignement en dehors de son contexte, on dirait que vous vous privez de quelque chose, ou que ces choses sont négatives. En fait, les choses en tant que telles ne constituent pas le problème. Le problème, c'est notre attachement à elles, l'attachement qui détruit sans cesse notre concentration, qui détruit notre tranquillité d'esprit. Lorsque vous voyez les choses comme étant inconstantes, stressantes et vides d'un soi, sous l'angle de la tentative de vous maintenir dans cet état de vacuité, alors la contemplation de leur vacuité est au service d'un but positif. Il est ainsi plus facile de ne pas être perturbé par elles. Les deux différents types de vacuité commencent à se relier. Vous pouvez maintenir cette sensation spacieuse de demeurer dans la vacuité, Et dans le même temps, les choses qui d'habitude vous dérangeaient, les choses qui d'habitude vous accablaient, deviennent vides, elles aussi, vides d'un soi. Parce qu'elles sont vides, elles ne perturbent pas la vacuité de votre conscience. Vous pouvez vivre ensemble. Vous pouvez vivre avec ces choses sans être accablé par elles. La vacuité de votre demeure mentale n'est pas perturbée par la vacuité des choses qui d'habitude la perturbaient. Lorsqu'elle n'est pas perturbée, vous pouvez l'examiner plus attentivement, jusqu'au stade où vous voyez que même la vacuité de la concentration est fabriquée. Elle aussi est vide de toute chose qui vaille la peine de la considérer comme étant vous ou à vous. Lorsque vous voyez ceci, vous perdez la passion qui fait que vous continuez à la fabriquer, et ainsi l'esprit est affranchi. C'est alors que ces deux différentes significations où les deux différents contextes de la vacuité se rejoignent, d'une manière qui crée de la liberté pour l'esprit. Cette intention positive s'applique à tous les passages où le Bouddha se focalise sur l'aspect négatif des choses. Il y a un passage dans le Sutta Nipata où il décrit comment, lorsqu'il était un jeune homme, il avait observé le monde avec un sentiment de consternation. La race humaine dans son ensemble apparaissait comme des poissons qui se battent dans une flaque d'eau, en train de rétrécir. Il n'y avait pas assez d'eau pour tous les poissons, et donc ils se battaient entre eux. Le monde est ainsi. Les gens sont constamment en train de se battre, comme si dans le monde il n'y avait pas suffisamment de quoi nourrir chacun, habiller chacun, fournir un abri à chacun. C'est une compétition constante, et partout où il regardait, il découvrait que chaque chose était revendiquée par une ou plusieurs personnes. Il n'y avait pas un endroit dans le monde où vous pouviez simplement être libre. Il n'y avait pas un endroit dans le monde où vous ne soyez pas poussé dehors par quelqu'un d'autre. Cela donna naissance chez lui à un fort sens de samvega, un fort sens de consternation. Mais ensuite, il se rendit compte que le problème ne venait pas du monde. Il se trouvait dans le cœur. Il y avait une flèche dans le cœur, ainsi qu'il l'a dit. Si vous pouviez retirer cette flèche, alors il n'y aurait plus de problème. Sa description du monde peut paraître pessimiste, mais elle est là dans un but positif. Si nous ne trouvions pas le monde étriqué, cela montrerait que notre cœur est petit. Mais notre cœur est vaste. Notre problème, c'est que nous essayons d'utiliser le monde pour remplir le cœur et c'est impossible. Le monde n'est pas suffisamment vaste pour le cœur. La seule chose qui peut remplir le cœur est la sensation de vacuité, la paix, l'absence de perturbation, qui provient de la concentration, de focaliser l'esprit sur un objet particulier et encore plus du lâcher-prise des attachements. Notre problème, c'est que nous essayons de remplir notre vie avec les mauvaises choses. Nous essayons de la remplir avec des choses plutôt que de la remplir avec l'espace et la paix que l'on peut obtenir lorsque nous travaillons sur la concentration, lorsque nous développons le discernement. Un autre des passages apparemment négatifs est celui où le Bouddha parle du corps selon les termes de ses 32 parties. Vous démontez le corps, vous examinez chaque morceau et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien là, dans le corps, à quoi vous voudriez vous attacher. Vous avez des poumons, vous avez un foie, vous avez des intestins, et vous avez le contenu de vos intestins, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Beaucoup de gens élèvent des objections au sujet de cette contemplation, disant que c'est une manière négative de voir le corps, mais le but de cette contemplation est de libérer l'esprit. Cela conduit à un sens de légèreté. Cela vous aide à vous rendre compte que vous ne devez pas prendre soin du corps de façon aussi obsessionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'y être si attaché. Vous n'êtes pas obligé de le considérer comme une fin en soi. C'est un outil utile, et nous en avons besoin dans la pratique, mais lorsque nous en faisons une fin en soi, nous surchargeons l'esprit, nous l'accablons. Le but de cette analyse est de libérer l'esprit, de lui donner un sentiment de légèreté, de remplir l'esprit avec l'espace de la concentration. Donc, ces manières de voir le monde, qui paraissent si négatives, sont en fait au service d'un but très positif. Nous rappeler le bonheur qui naît lorsque nous ne nous limitons pas à des désirs étroits, des obsessions étroites. lorsque nous pouvons libérer l'esprit des camisoles de force qu'il s'est imposées à lui-même, lorsque nous pouvons retirer cette flèche, la flèche du désir ardent qui repose sur la notion, fondée sur l'ignorance, que d'une manière ou d'une autre, nous obtiendrons de la satisfaction de notre corps, de la satisfaction de nos possessions, de la satisfaction de nos relations, de la satisfaction en construisant une philosophie agréable et cohérente, de la satisfaction à partir du monde. Nous regardons ces choses de cette manière pour voir à travers elles, pour nous rendre compte que nos attachements, nos agrippements, ne sont rien d'autre que des formes d'enfermement pour l'esprit. Lorsque nous disposons de la concentration comme contrepoids, il est facile d'accomplir cette sorte d'analyse et de ne pas être déprimé, car elle ouvre l'esprit sur des états de paix plus forts, plus durables, plus fermes, plus spacieux. Donc, quelle que soit l'étape de la pratique où vous vous trouvez, souvenez-vous que le respect pour la concentration constitue le fondement de tout le reste. L'appréciation du calme de l'esprit, ces petits espaces qui peuvent ne pas sembler très impressionnants au début, mais qui peuvent mener au bonheur véritable si vous les prenez au sérieux, si vous les traitez avec respect. C'est un autre thème courant, à travers l'ensemble des enseignements du Bouddha, que de petites choses impressionnantes dans l'esprit, si vous y faites attention, si vous en prenez soin, si pour employer les termes d'Ajahn Fuang vous les prakangez, peuvent plus que compenser l'effort dont on a besoin pour les développer. Le potentiel pour le bonheur réside dans de petites choses inattendues qui peuvent sembler anodines, et qui se montrent sur leur vrai jour lorsque vous faites preuve de respect à leur égard. Comme dans ces contes de fées où il y a un affreux petit troll que tout le monde méprise. Lorsqu'un petit enfant prend le temps de montrer un peu de respect au troll, celui-ci montre son or et le donne à l'enfant. C'est la même chose avec ces qualités de l'esprit. Lorsque vous faites preuve de respect à leur égard, elles vous donnent leur or.